Voilà, nous sommes très très heureux du moment que nous venons de vivre, de cette belle initiative. Merci à Paul d'en avoir été l'initiateur. Et merci aux enfants et au Seigneur qui permet cela. Et effectivement, nous voulons bien penser tout au long de l'année à ce travail, tout ce travail qui se fait auprès de notre jeunesse, pour que Dieu, dans sa grâce, touche et travaille ses cœurs, pour qu'il porte ensuite un jour beaucoup de fruits à sa gloire. Nous continuons ce matin notre série sur la vie de Moïse et donc la vie aussi du peuple d'Israël. Et je commence par quelques rappels de ce que nous avons dit la dernière fois. Alors que Moïse est sur la montagne et qu'il tarde à redescendre, de cette montagne où il est en train de recevoir les instructions de Dieu relatives au culte d'Israël et en particulier à la construction du tabernacle. Et alors qu'il est là sur la montagne depuis plusieurs semaines, le peuple perd patience et s'engage sur le chemin de l'idolâtrie. Un chemin que Dieu avait pourtant clairement interdit, défendu, dans le deuxième commandement du Décalogue. Quelle est loin la crainte de Dieu des chapitres précédents ? Qu'il est loin le souvenir de tout ce que Dieu a fait pour le peuple ? Qu'il est loin l'engagement répété quelques semaines auparavant, répété à trois reprises, « Oui, nous ferons tout ce que Dieu a dit. » Que la chair est faible, alors même que l'esprit est bien disposé. En effet, le peuple avait affirmé d'une seule voix et à plusieurs reprises, après que Dieu se soit révélé à lui, après qu'il ait fait alliance avec lui, après qu'il lui ait donné les 10 commandements, « Nous ferons tout ce que Dieu a dit. » Et pourtant, quelques semaines d'attente et d'incertitude auront eu raison de ces bonnes résolutions. Et voilà le peuple qui fait la fête devant ce veau d'or, devant cette idole qu'il vient de construire. C'est donc la deuxième partie du récit du veau d'or que je vous propose ce matin, après avoir considéré la première il y a 15 jours. Je navigue un petit peu à vue, je pensais terminer ce récit ce matin, et il s'avère qu'une troisième partie sera nécessaire. Ça, c'est pour la prochaine fois. Et je vous invite maintenant à lire une première partie du texte que nous allons considérer ce matin. Nous sommes dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, et je lis tout d'abord les versets 7 à 14. Exode 32, versets 7 à 14. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, s'est perverti. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un torillon de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple rétif. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère contre eux. Je les exterminerai et je ferai de toi une grande nation. » Moïse chercha à apaiser le Seigneur son Dieu. Il dit, « Seigneur, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple ? Alors que tu l'as fait sortir d'Égypte par une grande puissance, par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer, pour les faire disparaître de la terre. Reviens de ta colère ardente, renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même, Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ce sera son patrimoine pour toujours. Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Nous appellerons cette partie du récit la réponse de Dieu et l'intercession de Moïse. Alors que le peuple se livre à la débauche, nous avions souligné la dernière fois que le verbe « s'amuser » au verset 6 a très certainement une connotation sexuelle. Dieu prévient Moïse de ce qui est en train de se passer. Et en quelques mots, dans les versets 7 à 10, Dieu dépeint la situation à Moïse. « Ton peuple, dit Dieu, s'est corrompu. Les Israélites se sont écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils ont fait un veau d'or et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont attribué à cette idole le crédit de la sortie de l'Égypte. C'est un peuple à la nuque raide. » Notons que Dieu ne dit pas « mon peuple », mais « ton peuple ». Une désolidarisation qui traduit sans doute la grande colère de Dieu, parce que la faute du peuple est grande. Le constat est accablant. Israël semble s'être complètement détourné de Dieu. Il semble avoir tout oublié de ce que Dieu a fait pour lui, au point de donner, au verset 8, nous l'avons dit, le crédit de la sortie de l'Égypte à ce veau d'or. Notons aussi, comme je le soulignais la dernière fois, qu'il est possible que le peuple n'ait pas remplacé le Seigneur par cette idole, par cette autre divinité, mais qu'il ait simplement voulu la représenter, enfin, représenter le Seigneur par le veau d'or. Cela signifierait que l'abandon n'est pas total. Mais cela ne change rien au fait que le peuple a désobéi à Dieu, et surtout cela ne change rien au fait qu'il a bafoué, méprisé et rompu l'alliance qu'il venait de contracter avec Dieu. Le constat est donc accablant. Et Dieu annonce qu'il va exterminer son peuple. Sa colère va s'enflammer contre ce peuple à la nuque raide, ce peuple rétif, qui vient de complètement le mépriser. Ceci dit, Dieu ne va pas pour autant oublier ou abandonner la promesse qu'il a faite à Abraham, renouvelée à Isaac et renouvelée à Jacob, puisque Dieu dit à Moïse, un descendant d'Abraham, « Je ferai de toi une grande nation ». Que fait Moïse à l'annonce de ces choses? Verset 11, Moïse chercha à apaiser le Seigneur, son Dieu. Moïse va implorer le Seigneur. Il va plaider la cause du peuple. Il va intercéder pour lui. Il va agir en médiateur afin de sauver le peuple, si cela est possible. Et ainsi, Moïse rappelle à Dieu, au verset 11, que ce peuple est son peuple, qu'il est le peuple qu'il a fait sortir d'Égypte par une main puissante. Et il argumente avec Dieu, au verset 12, que la destruction de ce peuple serait un contre-témoignage auprès des Égyptiens, qui ne comprendraient pas que Dieu ait sauvé son peuple pour le détruire au désert. Moïse a à cœur l'honneur de Dieu. Il aime son peuple. Et c'est la raison pour laquelle il continue en implorant Dieu de revenir de l'ardeur de sa colère, de renoncer au mal qu'il a dit vouloir faire à son peuple. Enfin, au verset 13, Moïse demande à Dieu de se souvenir, pour en tenir compte, des promesses de bénédiction et des promesses du pays promis donc à Abraham, Isaac et Jacob. Que se passe-t-il ? après ce vibrant plaidoyer de Moïse pour le peuple. Que fait Dieu ? Nous lisons qu'il est touché par l'intercession de Moïse. Il se laisse infléchir. Verset 14, il renonce au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Ce passage suscite beaucoup de questions. Beaucoup de questions difficiles et beaucoup de questions importantes. Et vous devez certainement vous en poser quelques-unes depuis tout à l'heure. En voici un échantillon. Dieu change-t-il d'avis ? Dieu peut-il se tromper ? Dieu peut-il se laisser emporter par sa colère ? Dieu est-il inconstant, instable, pourrions-nous dire ? J'ajouterai quelques autres questions plus tard. Et nous reviendrons un peu plus tard sur ces questions. Je vous invite à lire la suite du récit et nous lisons maintenant les versets 15 à 29. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les deux tables de la charte en main, tables écrites des deux côtés, écrites de part et d'autre. Les tables, c'était l'œuvre de Dieu, l'écriture, c'était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit le bruit des acclamations du peuple, et il dit à Moïse : « Bruit de guerre dans le camp !» Mais celui-ci dit : « Ni le bruit des chants de victoire, ni le bruit des chants de défaite. Ce que j'entends, c'est un bruit de cantique. » Or, comme il s'approchait du camp, il vit le veau et des danses. Moïse s'enflamma de colère. De ses mains, il jeta les tables et les brisa au bas de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla, l'écrasa tout fin, le répandit à la surface de l'eau, et fit boire les fils d'Israël. Moïse dit à Aaron : « Que t'a fait ce peuple pour que tu amènes sur lui un grand péché ?» Aaron dit : « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que le peuple est dans le malheur. Ils m'ont dit : « Fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Je leur ai donc dit : « Qui a de l'or ? » Ils ont arraché de leurs oreilles, ils l'ont arraché de leurs oreilles et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était à l'abandon, car on l'avait abandonné, l'exposant à la dérision de ses adversaires. Alors Moïse se tint à la porte du camp et il dit : « Les partisans du Seigneur à moi !» Tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit : « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Mettez chacun l'épée au côté. Passez, repassez de porte en porte dans le camp et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. » Les fils de Lévi exécutèrent la parole de Moïse, et dans le peuple, il tomba environ 3000 hommes en ce jour-là. Moïse dit : « Recevez aujourd'hui l'investiture de par le Seigneur, chacun au prix même de son fils et de son frère, et qu'il vous accorde aujourd'hui bénédiction. » Il y a des textes plus simples. Nous appellerons cette partie du récit « La colère de Moïse et le jugement de Dieu ». Moïse est prévenu qu'il va découvrir, enfin il est prévenu, pardon, mais ce qu'il va découvrir en descendant de la montagne va dépasser ce qu'il avait sans doute imaginé. Alors qu'il est en chemin, en train de redescendre, il arrive tout d'abord là où Josué est resté pour l'attendre. Josué, qui ne sait pas ce qui se passe, et qui prend les bruits qu'il entend pour des bruits de guerre. Mais au verset 18, Moïse lui précise que ce ne sont pas des bruits de guerre, ce ne sont pas des chants de victoire ou des chants de défaite, mais d'autres chants, des cantiques. Ce que Josué et Moïse entendent, c'est le peuple qui fait la fête. C'est le peuple qui danse en l'honneur du veau d'or. C'est le peuple qui lui rend un culte. Et en arrivant près du camp, verset 19, Moïse voit le veau d'or, il voit les danses, il voit le spectacle désolant du peuple livré à la débauche. Et le verset 25 dit même, Moïse vit que le peuple était incontrôlable. Le peuple était livré au désordre. Au point qu'au verset 25 toujours, Moïse ne craigne que le peuple ne devienne la risée de leurs adversaires. Peut-être que les Amalécites qu'ils ont combattus au chapitre 17, peut-être traînaient-ils encore dans le coin. Et voyant tout cela, Moïse s'enflamme de colère. Comment tout cela est-il possible? Comment le peuple a-t-il pu ainsi tourner le dos à Dieu et de surcroît aussi rapidement? Comment a-t-il pu commettre un si grand péché? Dira-t-il au verset 21. Et Moïse brise les deux tables de la loi sur lesquelles, dit le texte, Dieu lui-même avait gravé la charte de l'Alliance, c'est-à-dire les 10 commandements. C'est un acte symbolique très fort que Moïse fait à ce moment. C'est aussi un acte symbolique tout à fait approprié pour montrer, pour signifier cette alliance brisée par le peuple, cette alliance méprisée par le peuple. Et que fait Moïse après avoir brisé les tables de la loi? Verset 20, il prit le veau qu'il avait fait, le brûla, l'écrasa tout fin, le répandit à la surface de l'eau et fit boire les fils d'Israël. Moïse prend d'une certaine manière le veau par les cornes pour le réduire en poussière, après l'avoir fait brûler, pour en répandre les cendres, la poussière dans l'eau et obliger le peuple à en boire. Il est possible que cette action n'ait pas eu d'autre but que celle de punir le peuple. Il est possible aussi, certains le pensent, qu'il y avait dans cette action une sorte de test afin de révéler qui était coupable et qui ne l'était pas. Devant cette désolation, Moïse va demander des comptes à Aaron. Aaron, à qui avec Hur il avait confié la charge du peuple pendant son absence. Moïse veut comprendre et il souligne la responsabilité d'Aaron. Verset 21, « Que t'a fait ce peuple pour que tu aies fait venir sur lui un si grand péché ?» Parce que oui, la faute est grande, énorme, incompréhensible. Mais les explications d'Aaron sont bien légères. C'est le peuple qui est porté au mal, littéralement, dit-il au verset 22. L'explication d'Aaron semble souligner la facilité avec laquelle il a cédé à la pression du peuple. Elle souligne aussi qu'Aaron ne se sent pas vraiment responsable de ce qui s'est passé. Et il y a quelque chose dans les explications d'Aaron qui fait penser à celle d'Adam dans le jardin d'Éden, quand il disait à Dieu, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et c'est comme si Aaron disait, « C'est pas ma faute, c'est ce peuple qui est enclin au mal et dont tu m'as confié la charge, qui m'a dit, « Fais-nous des dieux, j'ai jeté l'or au feu et il en est sorti cette idole. » Je ne suis pas responsable. Notons que sans l'intercession de Moïse en sa faveur, Et ça, c'est le texte du Deutéronome, le texte parallèle du Deutéronome 9 qui nous le dit au verset 20. Sans l'intercession de Moïse, Aaron aurait lui aussi péri à ce moment-là. Il serait mort comme les 3000 Israélites environ que les fils de Lévi vont faire périr à l'appel de Dieu et sur à l'appel de Moïse, pardon, et sur ordre de Dieu, et qui sont apparemment directement punis à cause de leurs péchés. C'est ce que nous rapportent les versets 25 à 29. Alors si la repentance de Dieu, entre guillemets, soulève bien des questions difficiles, cet ordre d'extermination de Dieu aussi. Le Dieu de l'Ancien Testament est-il sanguinaire, assoiffé de vengeance? Est-ce le même Dieu que le Père de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament? Comment comprendre les jugements de Dieu dont l'Ancien Testament est rempli? Et comment les comprendre à la lumière de l'amour de Dieu, par exemple? Que répondre à celles et ceux qui nous questionnent à ce sujet et qui nous disent que tout cela, c'est primitif, c'est de la barbarie, c'est l'Ancien Testament, mais heureusement, dans le Nouveau, c'est différent? On pourrait élargir le spectre des interrogations en ajoutant ici, en ajoutant au débat, toutes les guerres que Dieu ordonne, toutes les exterminations parfois de villes entières, en particulier lors de la conquête du pays de Canaan. Comment comprendre toutes ces choses? Nous y reviendrons dans quelques instants, mais avant cela, il nous reste un troisième et dernier passage à considérer. Et je vous invite à poursuivre la lecture, les versets 30 à 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur. Peut-être pourrai-je faire l'expiation pour votre péché. » Moïse revint vers le Seigneur et dit, « S'il te plaît, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Si maintenant tu voulais bien pardonner leur péché, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. » Le Seigneur dit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Maintenant, va, conduis le peuple où je t'ai dit. Mon messager marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je leur ferai rendre des comptes pour leurs péchés. » Le Seigneur frappa le peuple d'un fléau parce qu'il avait fait ce torillon, celui qu'Aaron avait fait. Et nous appellerons cette troisième et dernière partie la nouvelle intercession de Moïse et la grâce de Dieu. Dans cette dernière partie, nous assistons à quelque chose d'assez remarquable. Moïse est prêt à donner sa vie pour sauver celle du peuple. Sa vie et peut-être même celle d'après. À un moment dans notre série, ça viendra, peut-être comme la conclusion, nous parlerons de Moïse comme d'un type de Christ. Et très certainement que cette promptitude à donner sa vie pour le peuple en fait partie. Si un jugement a eu lieu, et les Lévites qui sont passés dans le peuple pour en exterminer à peu près 3000, c'est bien de cela dont il s'agit, si un jugement a eu lieu, la faute du peuple n'est cependant pas expiée. Et c'est dans cette optique que le lendemain, Moïse retourne vers Dieu, qu'il remonte sur la montagne. Verset 30, « Vous avez commis un grand péché, maintenant je vais monter vers le Seigneur, peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. » L'expiation, c'est le paiement pour la faute considérée par Dieu comme une dette à son égard. Et c'est ainsi que Moïse va à nouveau intercéder pour le peuple. Verset 32, il implore le pardon de Dieu. Il est prêt à se sacrifier pour eux. Il est prêt à ce que son nom soit effacé du livre de Dieu pour que le peuple soit pardonné. Mais Dieu est juste. C'est le coupable. C'est celui qui a péché contre Dieu, dont Dieu effacera le nom de son livre. Quelle est la réponse de Dieu à l'intercession de Moïse ? Elle se trouve en partie au verset 34 de notre texte. Et puis elle se trouve surtout dans la suite du récit, que nous considérerons donc une autre fois. Mais au verset 34, nous lisons « Et maintenant, va, conduis le peuple où je t'ai dit, et c'est mon ange qui marchera devant toi. » Ici, Dieu demande à Moïse de continuer à prendre soin du peuple, de continuer à le conduire et de l'emmener là où Dieu a dit, c'est-à-dire dans le pays de Canaan qu'il a promis à leur père de leur donner. Et cette partie de la réponse de Dieu à l'intercession de Moïse nous montre que Dieu n'a pas décidé d'abandonner son peuple, que Dieu n'a pas rejeté son peuple pour l'instant. Mais il y a aussi la suite du verset 34. « Mais le jour où j'interviendrai, dit Dieu, je leur ferai rendre des comptes pour leurs péchés. » Et cette deuxième partie de la réponse de Dieu nous montre que le pardon n'est pas encore acquis, accordé. La faute est grave. Le peuple doit le comprendre. Et puis l'alliance a été rompue. Il va falloir refaire une nouvelle alliance. Et nous considérerons donc tout ça la prochaine fois. Et pour l'heure, j'aimerais vous proposer maintenant de terminer avec quelques prolongements à tout ce que nous venons de dire, et en particulier en revenant sur les questions difficiles que nous avons évoquées. Premier de ces prolongements concerne donc la soi-disant repentance de Dieu. Ce prolongement concerne l'apparente inconstance dont fait preuve Dieu au verset 14. « Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. » Dieu agit ainsi après que Moïse ait plaidé avec lui. On peut aussi traduire « renonça au mal » par « regretta le mal qu'il avait décidé de faire ». Et ce revirement de situation soulève bien des questions, nous en avons déjà formulé quelques-unes. Dieu change-t-il d'avis ? Dieu peut-il se tromper ? Dieu se laisse-t-il emporter dans sa colère ? Dieu est-il inconstant ? Est-il instable ? Les voies de Dieu ne seraient-elles pas sûres ? Puisqu'il peut changer apparemment d'avis ? Dieu serait-il comme une girouette changeant au gré du vent et au gré des prières des siens, une fois d'un côté, une fois de l'autre. C'est ce que ce passage et quelques autres peuvent nous laisser à penser. En fait, nous trouvons dans la Bible deux sortes de textes à ce sujet. Il y a un premier groupe de textes qui affirme que Dieu ne change pas, qui affirme que Dieu ne se repent pas et qui affirme que Dieu ne regrette rien de ce qu'il fait. Je vous donne deux exemples, il y en a beaucoup d'autres, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. Nombre 23, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne le réalisera-t-il pas ? » Et puis Jacques 1, versets 16 et 17, « Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut, il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni éclipse, ni ombre de variation. » C'est constant. Ça, c'est un premier groupe de textes. Et puis, il y a un deuxième groupe de textes qui affirme le contraire. Qui affirme que Dieu change, qui affirme que Dieu regrette parfois, qui affirme même que Dieu se repent parfois. Et notre texte fait partie de ce deuxième groupe. Alors, comment faut-il comprendre l'ensemble de ces textes? Comment faut-il comprendre cette apparente contradiction? Est-ce que tout ça, ça veut dire que la Bible n'est pas fiable? Est-ce que tout ça, ça veut dire que la Bible dit tout et son contraire? En fait, ces deux types de textes, ces deux catégories, ces deux sortes de textes, ne se situent pas dans un rapport contradictoire, mais se situent dans un rapport de complémentarité. Parce qu'en réalité, ces deux types de textes ne parlent absolument pas de la même chose. Quand la Bible affirme que Dieu ne change pas, elle dit qu'il est immuable dans le sens qu'il n'est pas capricieux, qu'il n'est pas versatile, pas lunatique, qu'il n'est pas inconstant, irresponsable, imprévisible, il n'est pas influençable, à la merci d'idées nouvelles ou en vogue. Mais ces textes affirment au contraire que Dieu est fidèle à lui-même, fidèle à sa parole, fidèle à son alliance, et donc aussi fidèle aux hommes avec qui il a fait alliance. Et puis, nous avons donc d'autres textes, et quand la Bible affirme que Dieu regrette ou que Dieu se repent, ce qu'elle dit et ce qu'elle souligne, c'est que Dieu entretient des relations vivantes avec les humains et en particulier avec son peuple en tenant compte de leurs attitudes. Et en fait, ce n'est pas Dieu qui change, mais ce sont les hommes. Et parce que l'homme change, Dieu semble changer d'avis, alors qu'en réalité, il est simplement fidèle à sa volonté de toujours pardonner aux pécheurs qui se repentent. Ce qui semble être un changement d'avis de Dieu n'est en réalité qu'une réalisation de son décret de pardon ou de salut. Et dans les deux cas de figure, qu'il juge ou qu'il pardonne, il agit justement et surtout il agit conformément aux justes objectifs de sa volonté. Alors une précision néanmoins pourrait être utile ici. Parce que ce qui est finalement compliqué ici, c'est que pour parler de toutes ces choses et pour décrire Dieu, nous n'avons en réalité que des analogies humaines. Et ces analogies ne peuvent être que des approximations, puisque Dieu est tellement autre que l'être humain. Il est tellement plus grand que ce que notre intelligence peut saisir. Ainsi, quand la Bible dit que Dieu regrette ou se repent, c'est ce qu'on appelle dans le jargon théologique une description anthropopathique, c'est-à-dire anthropos de l'homme, pathique de pathos, les sentiments. Ce sont des sentiments humains qui sont attribués à Dieu, parce que nous n'avons pas mieux pour essayer d'expliquer Dieu que nous-mêmes et les analogies que nous pouvons faire avec nous-mêmes. Et cette approximation, alors c'est vrai, quand on parle du doigt de Dieu, etc., Dieu n'a pas de doigt. Hein, mais on essaye d'expliquer Dieu comme on peut. Enfin, les auteurs de la Bible sont confrontés à ce problème en permanence. Et cette approximation, ces approximations vont créer un décalage et vont nous mettre d'une façon aiguë devant notre difficulté à connaître Dieu et à le comprendre. Je résume. Quand nous disons que Dieu regrette ou se repent, nous devons comprendre essentiellement deux choses. Premièrement, que le péché de l'homme suscite la juste colère de Dieu et qu'il attire sur lui le jugement de Dieu. Ça, c'est une première donnée. On peut ajouter ici que tout cela, c'est à mettre aussi dans la perspective de la souffrance que le péché de l'homme engendre chez Dieu. Deuxièmement, que la repentance de l'homme permet à Dieu d'exercer sa miséricorde et non son jugement. La repentance de l'homme permet à Dieu d'exercer sa miséricorde et non son jugement. Et dans les deux cas de figure, je l'ai dit, Dieu agit conformément à sa personne et conformément à sa volonté. Donc Dieu ne change pas. Il n'est pas un homme pour changer. Il est toujours fidèle à lui-même. Et il entretient une relation vivante avec ses créatures. Comprenez par là qu'il n'y a pas de déterminisme. Et donc, toujours désireux de pardonner quand l'homme, la femme, l'être humain se repent. Le deuxième prolongement. Je sens en tout cas que... Alors, il n'y aura pas d'étude biblique ce mercredi, mais ça sera la semaine d'après qu'on reviendra. Notez bien toutes vos questions, mais je sens que je vais poser des RTT à ce moment-là. Je laisserai Albert répondre aux questions. Le deuxième prolongement concerne les autres questions difficiles qui sont liées à l'extermination d'environ 3000 Israélites dans notre passage. Alors, comment faut-il comprendre cet épisode ? Nous l'avons dit, nous avons posé la question, est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est sanguinaire, assoiffé de vengeance ? Est-ce qu'il est le même que celui du Nouveau Testament, le même que le Père de Jésus-Christ ? Comment comprendre à la lumière de son amour les jugements de Dieu dont est rempli l'Ancien Testament ? Que répondre à celles et ceux qui nous questionnent à ce sujet et qui nous disent que tout cela n'est au mieux que de la mythologie, voire de la barbarie. Alors c'est un vaste sujet, vous en doutez bien. On va l'effleurer, on va faire quelques incursions dans le sujet. On n'en fera pas complètement le tour ce matin. Mais quelques précisions néanmoins. Je ne peux pas comprendre les jugements de Dieu en général, de l'Ancien Testament en particulier, si je ne comprends pas certaines choses. Si je n'ai pas compris, premièrement, que Dieu est parfaitement saint et que le péché de l'homme est toujours une offense grave à sa sainteté et une désobéissance coupable à sa volonté. Ça, c'est une première chose. Je ne peux pas comprendre les jugements de Dieu si je n'ai pas compris, deuxièmement, que la juste réponse de Dieu au péché de l'homme, dans l'approximation des analogies qu'on peut trouver, est sa colère et son jugement. Je ne peux pas comprendre les jugements de Dieu, troisièmement, si je n'ai pas compris que l'homme est par nature pécheur. Et qu'il est ainsi depuis la chute, depuis le jardin d'Éden, sous la colère de Dieu, sous la condamnation à cause de ses péchés, et qu'il est voué à la mort éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Et puis je ne peux pas comprendre les jugements de Dieu, quatrièmement, si je n'ai pas compris que Dieu a fixé un jour où il va juger les hommes pécheurs, mais qu'en attendant, dans sa patience et dans sa bonté, il accorde la possibilité à l'homme pécheur de se repentir, d'être pardonné de ses péchés et de n'être donc plus sous la colère de Dieu ou sous la condamnation, parce que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Voilà, me semble-t-il, les quatre points de base qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre les jugements de Dieu. Alors, ceci dit, il arrive parfois que Dieu, sans attendre le jugement dernier, juge déjà maintenant, ici-bas, les hommes, grand H. Et ce sont de ces jugements-là dont nous parlons et dont l'Ancien Testament est rempli. Et ça, c'est la prérogative de Dieu qui fait ce qu'il veut. Ça, c'est la prérogative de Dieu qui le fait à qui il veut, puisque tous sont sous la condamnation. Et nous pourrions encore aller un pas plus loin et dire, qui sommes-nous, créatures, pour contester avec Dieu sur cette question? Ceci dit, nous pouvons néanmoins être choqués. Nous pouvons être choqués par les jugements de Dieu. Et ça se comprend. Et si nous le sommes, alors cela devrait nous amener à parler encore plus de l'amour de Dieu, à parler encore plus de la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ, le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés de la colère à venir. Si nous sommes choqués par le jugement de Dieu, qui est une réalité alors, nous devrions parler du soir au matin et du matin au soir de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous délivre du jugement de Dieu et de la colère à venir. L'apôtre Paul le dit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et il dira quelques chapitres auparavant, au chapitre 5, verset 9, « À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise ?» En réalité, si nous réfléchissons bien à cette question, ce qui devrait nous choquer, ce n'est pas le jugement de Dieu, ce qui devrait nous choquer, c'est le péché. Mais ça ne nous choque pas parce que nous sommes pécheurs, et parce que le péché, c'est notre quotidien. Donc, nous sommes choqués par le jugement de Dieu. Mais en réalité, nous devrions être choqués par le fait que nous nous comportons comme ces Israélites qui méprisent l'amour de Dieu et qui méprisent l'alliance que Dieu a faite avec eux, en péchant. Nous devrions, à bien y réfléchir, être choqués par le péché, par son horreur aux yeux de Dieu, par l'offense qu'il est pour le Dieu trois fois saint. Et si nous le sommes, alors cela devrait nous amener à plus de sainteté personnelle, à encore plus de gratitude et encore plus de consécration à servir Dieu. Parfois donc, Dieu exerce déjà maintenant son jugement. Et quand il le fait, c'est une annonce, c'est une préfiguration du grand jugement à venir. Nous trouvons que les jugements de l'Ancien Testament sont terribles. Imaginons un instant ce que sera le jugement dernier. Parce que c'est cela que nous devons comprendre quand nous sommes devant les jugements de l'Ancien Testament ou ailleurs. Et ces jugements sont une invitation à nous faire réfléchir à cette destinée terrible et inéluctable pour celui qui n'est pas en Jésus-Christ. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 31, « Il est terrible, c'est le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien, il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. » Oui, il est terrible, parce que le jugement de Dieu, ce n'est pas de la rigolade. Dieu est-il sanguinaire, assoiffé de vengeance? Non, non. Il est juste. Et il juge justement le pécheur et le péché. Non, parce qu'il aime ses créatures et parce qu'il désire que toutes soient sauvées. Et il l'a tellement désiré, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau Testament? Mais bien évidemment. C'est le même Dieu, toujours aussi saint, qui aime toujours autant le pécheur et qui est toujours autant prêt à lui pardonner. Et ce qui a changé, parce que quelque chose a changé, ce qui a changé, c'est premièrement que Jésus est venu. Et parce que Jésus est venu, ça a tout changé dans notre relation à Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes plus au bénéfice d'une alliance conditionnelle qui peut être rompue par notre désobéissance. Ça, c'était l'ancienne alliance. Ils vont devoir la refaire, l'alliance. Mais nous sommes au bénéfice de l'alliance inconditionnelle que nous avons en Jésus-Christ. Ainsi, nous ne sommes plus dans la réalité collective de l'Ancien Testament, mais nous sommes dans une réalité beaucoup plus personnelle. Il aurait bien évidemment fallu dire ici un mot sur les autres jugements que j'ai évoqués, ces guerres, ces exterminations. Il y aurait d'autres choses à dire, et peut-être, quand on progressera dans la série, qu'il y aura un moment pour faire le point là-dessus. En tout cas, faute de temps, ce matin, je ne rentre pas dans ces considérations-là. Il aurait sans doute aussi fallu dire quelque chose ici, parce que c'est très important dans notre texte, mais c'est pour la prochaine fois, quelque chose sur l'intercession et la médiation de Moïse. Nous y reviendrons parce que c'est extrêmement important. Pour l'heure, je m'arrête parce que je pense que nous avons assez de grains à moudre. Il y a eu des choses difficiles ce matin à considérer, difficiles à entendre, mais il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore un jour où je peux échapper à la colère de Dieu si je ne suis pas en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce que Dieu donne à chacun d'entre nous où nous pouvons mettre notre foi en Jésus afin d'échapper au jugement que nous méritons tous à cause de nos péchés. Aujourd'hui est un jour où je peux être pardonné de mes péchés et sauvé pour l'éternité. Que le Seigneur nous fasse la grâce à chacun de bien comprendre ces choses, dans un premier temps pour sa gloire, mais aussi pour notre bonheur à chacun. Amen.